Place Info.
Bonsoir à la une, l'attentat au couteau de Londres et les questions autour du Sahel. Avant l'hommage à nos soldats lundi, le gouvernement face à la mobilisation du 5 sur les retraites. Le Black Friday omniprésent, faut-il s'en plaindre? C'est dans les informés avec Michel Cotta. Bonsoir, journaliste et éditorialiste, ravi de vous accueillir ce soir. Avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de la ruchemedia.com. Avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Éric Delannoy, économiste, président, fondateur du cabinet Tenzing. Bienvenue à tous sur ce plateau, dans ce studio. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h, mais exceptionnellement à la radio seulement, en raison du mouvement social qui se poursuit à Radio France. L'attaque au couteau sur le London Bridge, que nous avons évoqué à l'instant, considéré comme un acte terroriste donc par la police de Londres. Le suspect, qui portait une ceinture d'explosifs factice, hein, a été tué par les forces de l'ordre. Écoutez le maire de Londres, Sadiq Khan.
Ce qui est remarquable dans les images que nous avons vues, c'est l'héroïsme stupéfiant des passants qui ont littéralement couru vers le danger. Nous savons, d'après les informations fournies par la Metropolitan Police, que le suspect semblait porter un engin explosif. Et les passants en question ne savaient pas alors qu'il était factice. Ils ont été exemplaires. C'est une nouvelle illustration du courage et de l'héroïsme de ces Londoniens ordinaires courant vers le danger, au mépris de leur sécurité personnelle, pour sauver d'autres citoyens. Je veux les remercier au nom de tous les Londoniens. Cela montre le meilleur de ce que nous sommes.
The best of us. Voilà donc le maire de Londres, Sadiq Khan. Yasmina Jaffar, le climat de menaces terroristes est permanent.
Totalement, et c'est vrai que lorsqu'on entend le maire de Londres, Sadiq Khan, on se rappelle aussi que le 3 juin 2017, il y a déjà eu 8 morts sur le pont, et il y avait déjà eu le même London Bridge, et il y avait déjà eu cet acte héroïque. Il y avait aussi le Thalys, où on a eu aussi des personnes qui se sont jetées à l'avant du danger pour pouvoir désarmer un homme complètement avoir l'envie folle de tuer. Et là, on se rend compte que l'arme, en effet, est factice. Alors la différence avec Al-Qaïda, c'est que les moyens ne sont plus présents et que le couteau est là, et ça fait peur et ça attaque tout le monde sans savoir comment. Un jour de Black Friday, un jour où dans quelques jours l'OTAN se réunit mercredi à Londres, où il y a des élections législatives qui arrivent avec une tension forte politique, le couteau est dangereux, mais en tout cas ça n'est pas les moyens de bombes totales qui pourraient tuer beaucoup plus de gens ou des armes à feu. Donc ça n'est pas comme Al-Qaïda. Daesh montre là une faiblesse financière, et ça fait le lien avec ce qui se passe aussi au Mali la volonté de la France ou d'Angleterre de réagir et de lutter contre contre le terrorisme.
Michel Cotta, vous êtes d'accord avec ce regard? Est-ce qu'il faut ne pas surestimer ce qui s'est produit à Londres ce soir?
Non, moi je ne suis pas du tout d'accord, pardon, mais écoutez, un des mots d'ordre, justement, d'Al-Qaïda a été tué par tous les moyens, tué avec un couteau quand on n'avait pas d'autre chose, tué avec un camion, ce qui a été fait à Nice, vous vous rappelez. Oui. Donc je crois que c'est quand même une application sûrement des vœux d'Al-Qaïda, maintenant, qui n'est pas mis en forme par Al-Qaïda. Mais ça me paraît encore plus dangereux, parce que c'est un terrorisme ordinaire, un terrorisme individuel, ou semi-individuel, il en a peut-être parlé à 2 ou 3 amis, et qui peut frapper vraiment tout le monde. Donc, je suis pas sûr qu'Al-Qaïda ne soit pas derrière, en tout cas dans les mots d'ordre tels qu'ils ont été donnés par les chefs suprêmes il y a ça maintenant 2 ans.
Oui, vous évoquez l'attentat de Nice du 14 juillet de 2016. Oui. Franck Dedieu, la vigilance reste un mot d'ordre, mais au fond, est-ce qu'elle s'applique réellement?
Lorsque vous voyez que effectivement ça peut intervenir partout, tout le temps, on a beaucoup parlé de Londres à un moment donné, que c'était le modèle multiculturaliste allait permettre justement de repousser le terrorisme.
C'est aussi le Londonistan. Hein.
Voilà, à rebours de notre modèle plus assimilationniste dont on disait que c'était un échec. Alors effectivement, on a payé un lourd tribut, mais finalement, je dirais, quels que soient les pays, le terrorisme peut intervenir de toutes les manières. Et Michel Cotta parlait de terrorisme ordinaire. Effectivement, il y a, malheureusement, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, un terrorisme low cost, hein, avec des couteaux. En particulier,
sans moyens, c'est ce que je disais. Donc en fait, nous sommes d'accord.
C'est un terrorisme sans moyens qui peut tout de même diffuser, comme son nom l'indique, la terreur, la terreur absolue.
C'est ce que j'ai dit aussi.
D'autant plus qu'il y a une sorte de mimétisme et de banalisation de la violence. Alors, effectivement, c'est un peu différent du terrorisme en Angleterre, avec la recrudescence des armes blanches. Sachez que depuis un an, vous avez les meurtres aux armes blanches qui ont augmenté 5 fois plus que les meurtres à armes à feu. Alors, c'est pas de nature terroriste, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de banalisation de terrorisme low cost qui finalement étend sa terreur par-delà les modèles politiques d'assimilation.
Low cost, Eric Delannoy, mais qui se nourrit tout de même du spectacle de l'information permanente. Hein.
Ah oui, l'information permanente et cette banalisation de la violence.
C'est une chambre d'écho finalement.
Elle est partout.
Mais c'est comme ça, c'est ainsi.
Moi ce que je voudrais noter quand même, c'est que cette vision qu'on a de Londres ce soir, c'est la vision qu'on peut avoir de n'importe quelle capitale européenne finalement, parce que justement, c'est un meurtre banal, c'est un moyen banal, et ça rappelle ô combien que le terrorisme n'a pas de frontières, ô combien que l'Europe doit se préparer à faire en sorte de lutter par le dialogue, ô combien qu'il faudrait revoir les accords de Schengen pour les nourrir et revoir les échanges d'informations, bref, restructurer et c'est l'Europe pour qu'elle fonctionne mieux, et c'est là où le terrorisme, c'est là où le multilatéralisme doit bien fonctionner.
Michel Cotta, vous avez la sensation qu'au fond on apprend à chaque épisode, ou bien à chaque fois on se dit qu'il faut peut-être revoir les choses, comme l'explique à l'instant Eric Delannoy?
On a l'impression, en tout cas, que ça marche pas, que c'est très difficile à faire, très difficile de lutter. C'est vrai qu'il est paradoxalement plus facile de lutter contre un réseau. Et d'ailleurs, quand ici on dit qu'on a déjoué plusieurs attentats, c'était des attentats effectivement pas individuels.
Ce qui est une réalité. Hein.
Mais je trouve quand même que c'est un mot d'ordre. Il reste que l'assassinat par le couteau est un mot d'ordre islamique de Daesh, et qu'on aurait tort, je crois, de penser que Daesh reste extérieur. Oui, elle est extérieure.
Et
il n'y a plus de grands réseaux qui sont décidés depuis tel endroit de Syrie ou non, ça on est d'accord. Mais il y a un état d'esprit général d'un certain nombre de terroristes disséminés. Et ça paraît presque plus grave, parce que ça pourrait être...
C'est moins prévisible.
Ça pourrait être voisin de palier, voilà.
Allez, 20h10 sur France Info, nous marquons une pause avec le rappel de l'info et vous, Solène Cresson.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson suspend sa campagne, au moins pour la soirée, après l'attaque au couteau de Londres, tout comme le parti travailliste. En début d'après-midi, un homme a poignardé plusieurs personnes sur London Bridge. Il a ensuite été abattu par la police, qui parle d'attaque terroriste. Il y a des blessés graves. Plusieurs actions pour dénoncer le Black Friday et la surconsommation, avec en ligne de mire Amazon. Action de militants écologistes devant le siège du géant américain à Clichy, près de Paris, à Lyon aussi et dans le Nord. En Allemagne, des centaines d'employés d'Amazon ont fait grève. Une enquête pour atteinte à l'intégrité d'un cadavre ouverte par le parquet de Paris après les révélations de l'Express sur le centre du don des corps à la science de Paris Descartes. Le magazine dénonce les conditions indécentes de conservation de milliers de dépouilles. Le centre a fermé depuis 2 jours sur ordre du ministère de la Recherche. La France condamne fermement l'usage excessif de la force en Irak contre les manifestants. Depuis 2 mois, la contestation a fait près de 420 morts dans le pays. Les manifestants demandent le départ de la classe politique jugée corrompu. Le Premier ministre irakien annonce qu'il va démissionner. Dans un peu moins de 45 minutes, l'Olympique de Marseille reçoit Brest, début de la 15e journée de Ligue 1 de football en Ligue des Champions. Canal+ et beIN Sport récupèrent les droits. Ils diffuseront la compétition de 2021 à 2024. TF1 pourra diffuser la finale.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous évoquons le terrorisme. Il y aura lundi l'hommage de la nation à nos 13 militaires français tombés lundi soir au Mali dans cette collision d'hélicoptères lors d'une intervention anti-djihadiste. Le général François Lecointre, le chef d'état-major des armées sur RFI ce matin, a démenti l'affirmation avancée hier par le groupe terroriste État islamique, selon laquelle des tirs de djihadistes avaient mené la collision.
L'armée française dit la vérité. Je pense que c'est important de bien le mesurer. Elle dit la vérité d'abord parce que nous devons la vérité à nos soldats et nous devons la vérité aux familles de nos compagnons d'armes qui sont morts. Il y a collision entre 2 hélicoptères dans une opération de combat très complexe qui nécessite, dans une opération et dans une ambiance dure de concentration au combat, une très fine coordination, et cette coordination a entraîné cet accident, mais pour autant il n'y a pas eu de prise à partie par les djihadistes. qui était poursuivi et qui était marqué d'une certaine manière au sol. Il n'y a pas eu donc de retrait d'un appareil face à un tir de djihadiste.
Éric Delannoy, derrière le rideau de la guerre, au fond, il y a toujours cette bataille de communication au fond.
Une bataille de communication et surtout des interrogations dont on pense qu'on va pouvoir répondre en 3 minutes et qui sont mine de rien des situations stratégiques complexes. Ce drame absolu de ces 13 morts ne doit pas être l'occasion systématiquement d'essayer de revoir une stratégie qui est pensée depuis 2013.
Pour vous, il ne faut pas toucher à ce qui se passe là-bas, le dispositif.
Je pense que c'est pas l'émotion qui est la meilleure conseillère pour pouvoir toucher à cette stratégie. Donc c'est pas forcément le meilleur moment pour pouvoir y toucher, sachant que je fais confiance aux états-majors des armées pour faire en sorte que cette situation elle soit examinée, reconduite et mise en doute en permanence avec les opérations qui sont mises en place. Oui. Je pense que quand le président Macron dit que toutes les options sont sur la table, il veut essentiellement dire qu'on se sent bien seul dans cette opération.
Michel Cotta, vous l'avez interprété de cette façon-là, quand il dit toutes les options stratégiques sont ouvertes. Il ne veut pas le retrait tout de même.
C'est vrai qu'il ne faut pas céder à l'émotion. Hein. On est tous d'accord. Et changer de stratégie sous le prétexte qu'il y a une grande émotion. Enfin, quand même, quand François Hollande a commencé ce combat, on le comprenait très bien.
Janvier
2013.
Hein,
on comprenait pourquoi. Bon, mais on avait dit aussi qu'on s'enliserait pas. Or, l'histoire a montré qu'on s'enlisait, de toute façon, et qu'on s'enlise en plus tout seul.
On s'enlise parce
qu'on est tout seul. Donc, quand même, cette situation, en tout cas, peut pas durer éternellement. C'est pas possible.
Vous dites ça ce soir.
Alors, oui. Les Allemands, vous avez vu que les Allemands disent c'est de la faute de la France. Elle trouve que le Sahel, c'est son fief à elle. Alors, elle a qu'à se débrouiller. Je trouve que là, pour le coup, il manque vraiment petit soutien. Alors, le soutien africain y est, mais il est toujours
à géométrie variable. On va dire ça comme ça.
Variable. Ouais. Mais on est un peu seul, quoi.
Franck de Dieu, la France s'enlise, comme le dit à l'instant Michel Cotta.
Ça révèle la solitude de la France, hein, l'enlisement peut-être, mais surtout la solitude de la France. Et je crois qu'effectivement, derrière cette idée selon laquelle toutes les options sont sur la table, il y a l'idée quand même de solliciter des alliés. Alors on a beau jeu de dire juste avant que l'OTAN ait un mort cérébral et que de dire écoutez, les États-Unis, vous considérez que vous contribuez beaucoup trop à l'OTAN par rapport aux autres, j'ai l'impression que la France contribue aussi. Non, au fond, cette histoire devrait plutôt nous faire regarder vers l'Europe. Michel Cotta a raison. Pardon de dire, mais c'est quand même l'Europe qui fait défaut dans cette histoire. Ouais. Et quelque part, je ne peux pas m'empêcher de relier, vous allez me dire que peut-être que j'ai la suite dans les idées, mais de relier l'interview qu'il avait fait à The Economist en disant l'OTAN est un mort cérébral et les 3%, ça appartient au passé. Le lien, c'est que si l'Europe, je dirais, considère qu'elle n'a pas, elle n'a pas à engager des dépenses militaires et que la protection, parce qu'il s'agit quand même de recrudescence du djihadisme et des luttes intercommunautaires.
Qui concerne toute l'Europe.
Qui concerne toute l'Europe, effectivement. Alors, je dirais, à ce moment-là, il a qu'à dire, eh bien, écoutez, les dépenses françaises pour des opérations extérieures, elles sortent du calcul des 3% pour la calcul du déficit public. Tout ça peut vous paraître un peu technique, mais ça l'est pas du tout. Et je suis désolé, mais il faut que cela débouche quand même sur une décision. Donc, soit l'Union européenne prend sa part du fardeau, je dirais, militairement, soit elle donne une option, je dirais, budgétaire à la France, avec l'idée de retirer du calcul des déficits, je dirais, eh bien, le montant de notre intervention.
De l'engagement militaire.
Il faut qu'il y ait un acte militaire, politique ou budgétaire, au minimum.
Ou alors tout le monde se met ensemble et combat ensemble. Il y a l'OTAN qui réunit son sommet mardi, mercredi, à Londres, justement, en présence des présidents, notamment Emmanuel Macron et Donald Trump. Puisque vous évoquez la mort cérébrale, ce sont les arguments utilisés par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'en est pris Emmanuel Macron, le jugeant en état de mort cérébrale, paraphrasant les mots du président français dans The Economist. Voici ce qu'en a dit ce soir l'eurodéputé du Rassemblement National, Gilbert Collard, qui était l'invité du 1850 France Info.
Ce dictateur ferait mieux de la fermer, entre nous. Il est en très mauvaise situation dans son pays, ce qui explique cette surenchère. Moi, il n'y a que le capitaine Haddock qui pourrait lui répondre. Hein. Vous savez pourquoi ?
Allez-y.
Il lui dirait Bachibouzouk, le capitaine Haddock. Mais enfin, il faut reconnaître que la diplomatie internationale atteint un niveau un peu limite. Hein. On ne peut pas dire que Macron ait tort quand il dit que l'OTAN ne sert plus à rien. On a à l'intérieur de l'OTAN une Turquie qui n'est pas notre allié, à qui nous donnons quand même beaucoup d'argent sur le plan européen, 6 milliards d'euros. Et il demande une rallonge de 1,5 milliard pour ne pas ouvrir les digues des réfugiés. Bon, je crois qu'on devrait lui mettre un grand nom dans la figure, quoi. Lui dire ouais. Ça suffit maintenant.
Yasmina Jaffar, soutien pour le moins inattendu hein, pour Emmanuel Macron. Mais tout de même, par-delà cette réflexion, c'est une cohabitation qui devient impossible au sein de l'OTAN.
Oui, je suis pas toujours d'accord avec Monsieur Collard, mais là, pour une fois, en effet, les mots sont justes, ça devient impossible, et l'outrance, qui rappelle peut-être dans un autre genre l'outrance de Monsieur Trump, est complètement hors sujet et hors propos, et rappelle que la Turquie, finalement, a pas grand-chose à faire dans le cercle européen. Mais c'est vrai qu'il faut, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, ne pas céder à l'émotion et beaucoup de pédagogie pour expliquer aux Français pourquoi, en fait, nous sommes au Mali, qui pouvait devenir une base arrière pour un djihadisme absolu. Ouais. Et Londres, aujourd'hui, nous montre que l'Europe est la première endroit touché par une recrudescence absolue des djihadistes qui montaient vers le Maghreb et plus encore en Europe.
Michel Cotard, on se demande comment le français et le turc, hein, c'est comme ça qu'on parle dans la diplomatie, vont se parler mardi, hein, au fait.
Je trouve que la vie politique internationale, et là aussi je reprends le mot de Gilbert Collard, franchement, je trouve que tous ces gens parlent maintenant très mal, non ?
Ils parlent mal.
Il y a autant de violence parmi eux que qu'en France par moment. Il y a une espèce de haine qui s'explique pas. Oui. Je crois que, en effet, Donald Trump a donné le là, mais. Quand, tout de même, je sais pas comment ils vont se regarder, peu importe. Ils sont peut-être habitués à tout et ils ont le cuir épais. Il reste que pour les braves gens que nous sommes, c'est tout à fait insupportable d'entendre des dirigeants tout de même.
Parler
de cette façon-là.
Ça va trop loin, Éric Delannoy ?
Oui, ça va trop loin. Enfin, tout a été dit. Hein. Quand on voit les critiques de Bolsonaro sur Madame Macron, quand on voit, enfin, on est dans une séquence de politique de bas étage dans lequel, de mon point de vue, c'était aussi une des conséquences de cette fin du multilatéralisme qu'on évoquait tout à l'heure que Trump voudrait voir arriver, qui fait que maintenant, finalement, on s'invective en bilatéral, alors que quand il y a des débats multilatéraux, quelque part, on est obligé d'aller sur le fond parce qu'il faut trouver des solutions à plusieurs. À partir du moment où on commence à personnaliser les débats, on peut dire absolument n'importe quoi. Et lui, il utilise la technique de l'ennemi extérieur parce qu'effectivement, il est en difficulté à l'intérieur. Je parle du président turc, bien sûr, parce qu'il est en difficulté à l'intérieur. Et je pense qu'il ne faut pas y prêter plus d'attention que cela.
20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec Solène Cresson. Et dans un instant, nous allons aborder le mouvement du 5 décembre.
L'attaque de London Bridge est bien terroriste, dit la police britannique. Vers 14h cet après-midi, un homme a poignardé plusieurs personnes avec un couteau. Il y a des blessés graves. Le suspect a été tué par balle. Il portait une fausse ceinture d'explosifs. London Bridge, ce pont du centre de la capitale britannique, déjà visé par un attentat en 2017. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 24 avril prochain dans le procès des kits de campagne du Front National. Le Rassemblement National et des proches de Marine Le Pen, jugés depuis le début du mois, le parquet a notamment requis 2 ans de prison contre Frédéric Chatillon. Un couple de médecins de Seine-Maritime mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour avoir euthanasié plusieurs patients. Information France Bleu Normandie. 7 corps ont été exhumés. Les enquêteurs ont retrouvé dans 5 d'entre eux un puissant sédatif. Aucune famille n'a porté plainte. L'ambassadeur de Turquie en France, convoqué au ministère des Affaires étrangères, il doit s'expliquer sur les déclarations du président turc Erdogan. Il juge qu'Emmanuel Macron est en état de mort cérébrale. À quelques jours d'un sommet crucial de l'OTAN, l'Elysée parle même d'insultes. Et puis 200 salariés de Radio France ont manifesté devant le ministère de la Culture cet après-midi à Paris pour protester contre le plan de réorganisation de l'entreprise. Plusieurs syndicats ont appelé les salariés à la grève toute cette semaine.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et l'ambassadeur de Turquie va passer un mauvais quart d'heure. Quel sera le niveau de la mobilisation contre les retraites jeudi prochain? Jean-Luc Mélenchon a appelé sur Twitter à un 5 à 7 contre la réforme, soit du jeudi au samedi. Voici le leader de la France insoumise.
Chacun a son petit tas de points, hein, et puis à la fin, il s'arrange avec son petit tas de points pour avoir sa retraite. Non, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. La retraite par répartition, c'est bien, ça marche. Si vous faites les moutons, vous serez tondu. Voilà. Donc le 5 décembre, il faut se mettre dans l'action. Et moi, je ne vais pas vous le demander en vous disant « pardon, s'il vous plaît, je vous caresse la tête ». Non. Maintenant, il s'agit de défendre le fondamental de ce à quoi on croit. Une société de solidarité et une société de partage. Hein. et on arrête de regarder dans l'assiette du voisin pour dire « Ah, il en a plus que moi ». Parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de défendre un bien commun.
Si vous faites les moutons, vous serez tendu. Michel Cotta, Jean-Luc Mélenchon le dit plutôt bien. Mais qu'est-ce qu'il faut retirer de cet appel à manifester? Vous avez la sensation qu'on va vers un choc jeudi prochain?
On a quand même la sensation que, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon est décidé à y participer fortement. Oui, un choc, oui. D'ailleurs, on l'attend tellement, on l'annonce tellement, on en fait tellement qu'effectivement, oui, il va sûrement y avoir quelque chose. Le problème est de savoir si ça dure ou si ça dure pas. Parce qu'en fait, le 5 décembre, maintenant, chacun l'a assimilé, si j'ose dire. On sait déjà que on va rester chez soi, peut-être, qu'on fait du télétravail. Le problème, c'est après, alors convergence des luttes ou pas, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon fait tout pour qu'il y ait une convergence des luttes et sans doute c'est effectivement sa place politique. Il ne surprend personne en disant ce qu'il dit.
C'est intéressant ce que vous avancez, Michel Cotta. Franck de Dieu, est-ce que nous sommes face à une sorte de prophétie autoréalisatrice au fond?
Alors, à mon avis, il y a deux mouvements presque contradictoires. D'ailleurs, l'image du mouton n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée quand même d'une résignation. Et à la fois, l'idée d'une vraie volonté d'en finir, de se révolter, d'être mobilisé pour le 5 décembre. Cette résignation, elle est quand même pas mal liée à une équation démographique qui finit par, je dirais, gagner les esprits. À la différence peut-être du mouvement de 95, c'est de dire, en gros, on a une équation démographique très difficile à résoudre. Il y aura demain moins de cotisants et il y aura demain plus d'actifs. Donc on va jouer sur quoi ? Alors, depuis des mois et des mois, on est en train, nous, journalistes, de discuter. Alors, il va jouer sur l'âge pivot, mais ça va gagner qui? Il va jouer sur la clause du grand-père. Ah, mais non, en fait, là, les derniers, c'est les nouveaux entrants, ceux qui sont nés entre 68 et 73, qui seront les premiers touchés. Ah oui, mais il y aura peut-être une variation de pénibilité. Ah non, mais il y aura peut-être des points. Autrement dit, non, mais on est finalement obligé de rentrer dans une logique technico-byzantine à cause de cette incertitude et de cette démographie. Sauf que, c'est pour ça que je reviens sur l'idée de la résignation, je crois qu'il ne faut pas se résigner et il faut se dire, si on reste dans ce système en gros européen, 3%, austérité, équilibre, 14% du PIB, nous disent les Européens, la Commission, pardon, doivent être consacrés aux retraites, dans cet univers extrêmement fermé, extrêmement balisé, tout le reste nous paraît être finalement des sortes d'équations à 36 inconnues, alors on bouge, il y a des curseurs, etc. Si on décide de rester là-dedans, et bien effectivement, ça va se passer pareil, quoi. On va augmenter la durée de cotisation. Ça va être ça, en gros.
De la technique, finalement.
Ça va être de la technique. Si on sort de ce système, mais ça suppose quand même de sortir en grand. Ça suppose de dire, ben non, attendez, on va peut-être augmenter les cotisations patronales, on va peut-être faire une relance économique, on va peut-être, nous, à Marianne, on a fait une autre une sur les salaires, en disant, mais la solution, elle vient peut-être des salaires qui s'articulent avec la question des retraites. À mon avis, la question qui se pose derrière cela, c'est pas une question technique, c'est une question systémique qui se pose dans une vérité crue, en fait.
Vous lancez le grand débat. Rassurez-vous, on en parlera dans la deuxième partie des informés également. Mais tout d'abord, Éric Delannoy, l'économiste, présent sur ce plateau. Vous avez compris, vous, j'imagine, tous ces débats, assez contradictoires, finalement, qui sont sur la place publique depuis plusieurs semaines.
En fait, le vrai sujet, c'est que ces débats effectivement mêlent argumentation politique, argumentation technique, sans qu'on soit capable de définir ce que va être la solution technique finale, puisque elle n'est pas définie. Enfin, il y en a qui vont aller dans la rue quand même le 5 décembre, pour manifester contre quelque chose qui n'est pas défini, qui est en négociation, qui est sur la table. Sauf qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller à la négociation.
Ce n'est pas défini.
Mais évidemment que c'est pas défini. Enfin, pour le coup, il y a des propos qui ont été mis sur la table. Enfin, il y a quelques principes clés qui ont été mis en place, premier principe clé, c'est système universel, c'est fin des régimes spéciaux. Mais les modalités techniques de comment va se formuler le point, comment vont se passer les pensions de réversion, comment vont être traitées les inégalités de traitement, etc., etc., le pacte républicain, tout ça, il faut mettre en place un système de transition. Moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que par rapport à ça, on est quand même, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon, dans la grande foire au conservatisme quand même. Enfin, parce que, enfin, je veux dire, en fait, il veut rien bouger et juste défendre les petits intérêts catégoriels qui font qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup d'argent là où encore pour un certain nombre de provisions. Pardon.
Pognon dingue. Yasmina Jaffar, on va marquer une pause, mais juste quelques mots avec vous. Répartition, ça marche, dit Mélenchon, c'est ce que dit Martinez aussi. Et Éric Delannoy nous dit ce soir qu'il faut changer le système. Il est là finalement l'affrontement. C'est touche pas à ma répartition.
Les Français ont compris qu'il fallait changer les choses et réformer le système des retraites. Et en même temps, ils soutiennent fortement le 5 et la démarche. Et les syndicats, eux, ont envie d'une forme de revanche, surtout en la personne de M. Martinez, parce qu'ils n'ont pas été très bien traités depuis 2 ans et demi. Donc ce qu'ils attendent, le 5, c'est que tout le monde aille dans la rue pour dire au président de la République, comme une affaire personnelle, voyez, on a gagné la première manche. Ou la deuxième manche, suite à l'histoire de la SNCF et la réforme de la SNCF. Donc, on est un peu pris en étau dans une guérilla des pouvoirs et des envies d'exister. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le texte et on verra bien ce qu'il se passera le 6. Moi, j'ai tellement envie d'être le 6. On a tellement mythifié le 5 que je veux juste être le 6.
Le texte, c'est le 9 ou le 10, hein, je vous rappelle. Allez, on reste là-dessus. Vous rassurez-vous, dans la deuxième partie des informés, 20h et 28 minutes sur France Info, nous marquons une petite pause pour la météo. Le rappel de l'info et on se retrouve dans un court instant.
France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Encore beaucoup de nuages demain et un peu de pluie entre les côtes de la Manche, la région parisienne, le nord-est, jusqu'au nord des Alpes, ce sera gris, pluvieux le matin. Les pluies s'espaceront un peu par l'ouest l'après-midi. Il neigera autour de 1200-1300 mètres. Sur le nord des Alpes, au-dessus de 1800 mètres, on attend 20 à 30 cm de neige. Sur le nord Pas-de-Calais, de belles éclaircies s'inviteront pour l'après-midi. Le soleil s'imposera sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dès le matin, jusqu'au Languedoc-Roussillon l'après-midi. Le vent atteindra encore 60 km à l'heure, 100 pour les Caps Corses. Ailleurs, il faudra composer avec les nuages et les averses. Elles seront moins nombreuses l'après-midi. Ça s'éclaircira de la Vendée jusqu'à l'Aquitaine. Les températures baisseront encore un peu, mais resteront plutôt douces avec 6 à 11 degrés le matin. L'après-midi, 9 degrés à Lille, 10 à Paris et Mulhouse, 13 à Nantes, à Lyon, 15 degrés à Agen, 18 à Montpellier et 20 à Nice.
20h et presque 30 minutes sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir, mon cher Emmanuel Langlois. À 20h et 30 minutes sur France Info.
Plusieurs personnes blessées dans le centre de Londres. On l'a donc appris cet après-midi dans cette attaque au couteau, attaque produite qui s'est produite vers 14h sur le fameux London Bridge, le pont qui traverse Londres sur la Tamise. Le suspect a été arrêté par la police. Précision de Neil Bazou. Il est le chef adjoint de Scotland Yard, de la police métropolitaine de Londres.
Je peux confirmer qu'à environ 14 heures aujourd'hui, la police a été appelée pour une agression au couteau près de London Bridge. Un suspect, un homme, a été la cible de tirs de policiers armés de la police de Londres. Et je peux confirmer qu'il est mort sur place. Cet incident a bien été déclaré comme un acte terroriste. Mais je dois souligner que nous restons ouverts quant aux motifs. En raison de témoignages selon lesquels le suspect pouvait détenir un engin explosif, des officiers spécialistes se sont rendus sur place. Mais nous pensons que l'engin qui était attaché au corps du suspect est factice.
Le chef adjoint de Scotland Yard, et d'après la BBC, cette attaque aurait fait 2 victimes de mort. Le suspect lui a été abattu par la police. Décision le 24 avril devant le tribunal correctionnel de Paris dans le procès des kits de campagne électorale du Front National. 7 protagonistes, parmi lesquels 2 cadres du parti, dont un proche conseiller de Marine Le Pen, comparaissaient depuis le début du mois pour répondre d'escroqueries, d'abus de biens sociaux et de confiance, de recel ou encore de blanchiment. Une quinzaine de riverains évacués de leurs appartement dans l'hypercentre de Toulouse ce soir après l'effondrement de la toiture d'un immeuble inhabité vétuste, selon le directeur de cabinet du préfet. Il n'y a pas de victimes. Selon la mairie de Toulouse, tout le monde sera logé dès ce soir dans des hôtels. 41e vendredi consécutif de protestations dans les rues d'Alger. Ils étaient encore des milliers ce soir à défiler. Au moins 25 manifestants ont été arrêtés avant même le départ de ce traditionnel cortège hebdomadaire contre le pouvoir en place et la présidentielle prévu le 12 décembre en Algérie. En Irak, la démission aujourd'hui du Premier ministre, mis sous pression au lendemain d'une des journées les plus sanglantes en 2 mois d'une contestation marquée par plus de 400 morts dans le pays. Washington appelle ce soir les leaders irakiens à répondre aux revendications des manifestants. Les actions contre Amazon et la surconsommation à l'occasion du Black Friday, réunies à l'appel de plusieurs associations dont Greenpeace et Attac près de Paris, plusieurs dizaines de militants écologistes se sont rassemblés ce matin devant le siège français du géant du commerce en ligne à Clichy, où ils ont déroulé des banderoles hostiles. Et puis Canal+ et beIN Sport diffuseront la Ligue des champions de football entre 2021 et 2024, les deux chaînes qui succèdent ainsi à RMC Sport. Canal+ retransmettra les 2 principales affiches lors de chaque journée, ainsi que la finale. beIN a obtenu de son côté les droits pour la majorité des matchs. TF1 lui aussi diffusera la finale en clair de cette Ligue des Champions. Il est pile 20h33, les informés, ça continue.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Michel Cotta, journaliste et éditorialiste, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing. Nous évoquions la mobilisation du 5 décembre et contre les retraites et le gouvernement qui pendant ce temps tente de convaincre les Français. Jean-Paul Delevoye va recevoir à son tour les syndicats d'ici au 5. Le haut commissaire est allé échanger avec des jeunes sur les retraites aujourd'hui à la maison du handball à Créteil. Écoutez cet échange, cet argument très intéressant sur la table, le vieillissement de la population européenne et le nécessaire apport, selon le haut-commissaire, d'une immigration du travail dans les années qui viennent.
Il va falloir 50 millions de populations, entre guillemets, étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où plus un politique n'est capable de parler d'immigration parce que tout le monde s'hystérise, parce que tout le monde fait le procès de l'autre, on est dans un moment très malsain de notre démocratie, où on cherche à jeter en bouc émissaire. C'était hier le juif, aujourd'hui c'est le musulman, après-demain ce sera encore un autre. Il faut que, me semble-t-il, avec la sagesse que paradoxalement vous nous apportez, qu'on arrive à combattre ce climat malsain, parce que l'économie dépend du nombre de personnes qui travaillent.
Yasmina Jaffar, il est là le vrai sujet au fond, l'allongement, et c'est tant mieux, de l'espérance de vie, il n'y aurait plus assez d'actifs bientôt, trop de chômeurs.
Ce qui est intéressant dans la façon qu'a M. Delevoye de parler, c'est qu'il le dit le plus calmement possible. Il est là face à des jeunes. Et cette manière de parler de la société qui va pas très bien et on est dans un moment malsain, c'est le dire presque avec douceur. Et c'est absolument convaincant parce qu'en effet, on le dit, c'est presque un slogan maintenant, que l'immigration est une chance. Et que là, il s'est chiffré. Ça existe et on a besoin, en effet, d'actifs pour pouvoir équilibrer le système dans les années à venir. Et encore une fois, les Français sont complètement d'accord avec cette idée qu'il faille renouveler et réformer le système. Mais on en a tellement parlé ces 30 dernières années, à chaque mandat, un président de la République a tenté de réformer les retraites et ça n'a jamais fonctionné qu'on a l'impression que c'est l'Arlésienne. Mais aujourd'hui, la date définitive arrive et qu'il faut réagir. Et il le dit plutôt avec poésie, presque.
Michel Cotta, est-ce que le problème au fond, c'est de transformer la répartition en système par points et tout le monde sur le même niveau, les fameux 42 régimes, ou est-ce que c'est finalement le fait qu'il n'y ait pas assez d'actifs dans ce pays et du coup, eh bien, la machine ne tourne pas assez?
Non, mais je dirais simplement sur cette réforme, je trouve quand même que ça dure depuis trop longtemps. Et c'est ça qui désoriente quand même beaucoup les gens. Parce que la réforme était tellement ambitieuse. En quelque sorte, tout le monde a réformé. Et tout le monde a réformé un peu la retraite en changeant l'âge, etc. Mais là, l'ambition était énorme. Alors, on a l'impression qu'on est parti sur une ambition énorme, puis qu'on a débouché sur, effectivement, la retraite à point, qui est un bon sujet, qui d'ailleurs existe dans certaines catégories, puis sur le refus des régimes spéciaux. Puis là, on revient derrière et on dit, effectivement, rien n'est sur la table. Moi, je trouve que ça a quand même beaucoup duré et que c'est ça, sans doute, cette espèce de flou qui entoure la politique de retraite, les vœux des uns et des autres. Maintenant, avec l'argument que donne Jean-Paul Delevoye sur le vieillissement de la population, en tout cas, pour retourner sur la réalité, la seule chose qui est vraiment réelle, c'est le vieillissement de la population. Et un jour ou l'autre, il faudra bien que les gens s'aperçoivent que ils peuvent pas avoir énormément de retraites si personne ne travaille. Autour de cette vérité-là, je crois qu'il n'y a rien à dire. On peut même défiler le 5 décembre.
C'est le vrai sujet.
Oui, alors c'est le vrai sujet. J'y mets juste un bémol, c'est qu'on n'arrête pas de dire que dans 20 ans, on ne connaîtra pas la moitié des métiers qui existeront. Donc prévoir qu'il faudrait 50 millions de personnes en plus pour pouvoir, en termes d'actifs, si on ne connaît pas les emplois, je ne sais pas comment on peut évaluer ça. Donc ça, c'est quand même un premier point. Je pense que sur le fond, il y aura un vrai déficit d'actifs, mais il y aura une manière de le compenser qui sont potentiellement d'autres métiers, une productivité nouvelle qui va être trouvée par le moyen de travailler autrement. Donc, je ne suis pas sûr.
Cette non-visibilité-là, elle est à 5 ans, 10 ans?
Elle est à au moins à 10 ans. Ouais. Elle est au moins à 10 ans. Et c'est ça qui est gênant. C'est ce qui se passe avec la réforme des retraites actuellement. C'est qu'en fait, on est sur des spéculations qui ne s'appuient sur pas grand-chose aujourd'hui. Quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, moi, c'est pareil. Je n'y crois pas une demi-seconde. J'y crois pas parce que augmenter le salaire, ça a plein d'autres effets, des effets d'éviction sur les bas salaires, des problèmes thématiques de productivité. Et c'est comme si, pour moi, à partir du moment où les retraites, c'est une problématique de court terme, alors que les retraites, on est sur des équilibres financiers de moyen terme ou de long terme. C'est comme si quelqu'un voulait souffler sur l'océan pour créer une houle. Donc, on n'est pas sur les mêmes dimensions. Hein. Au contraire, quand on travaille sur les grands équilibres démographiques, on le rappelait tout à l'heure, augmenter la durée du travail, parce qu'en France, faut le rappeler, c'est quand même le pays où la durée de retraite est la plus élevée d'Europe. C'est le pays où on part le plus tôt au travail. Et si je reprends maintenant l'argument politique par rapport à maintenir les 42 régimes spéciaux, si on alignait tous les régimes sur la RATP, ça serait pas 14 ou 16 points de PIB qui seraient nécessaires, c'est 23 points de PIB. Ce n'est donc pas tenable économiquement.
Franck Dieu, alors répondez.
Il y a presque une contradiction dans ce qu'il vient de dire. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit, attendez, dans la mesure où il y a demain du progrès technique, et c'est vrai. C'est-à-dire que là, on est en train de se dire il faut augmenter la durée du travail, mais ce qui est en train de se passer, on en a débattu au moment de l'élection présidentielle sur, je dirais, le partage du travail, sur le revenu universel, c'est que peut-être que demain, dans la mesure où il y aura des gains de productivité absolument gigantesques, on va devoir peut-être baisser la durée du travail. Après, la question, c'est un contrat social, c'est-à-dire de quelle manière on gère à la fois la robotisation de la société, la baisse nécessaire peut-être de la durée du travail et les effets sur la productivité. Donc effectivement, vous avez, je crois, assez raison de se dire, attention, on peut tracer des courbes à horizon 50 ans, mais avec l'inconnu de la robotisation et puis aussi avec l'inconnu, je dirais, démographique tout de même.
Non, je suis d'accord. Juste pour conclure là-dessus, je suis assez d'accord qu'on peut imaginer des sources de revenus différents, genre revenu universel. Je ne suis pas d'accord pour dire on peut augmenter les salaires. C'est deux choses totalement différentes.
Elles sont quand même liées dans la mesure où l'augmentation des salaires, c'est aussi quand même des
cotisations. On verra peut-être dans 20 ans. Mais enfin, aujourd'hui, en tout cas, si la France travaille moins que les autres, ça se ressent. Et en tout cas, on voyait bien que les Français, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils comprennent très bien cet argument-là. Et s'ils viennent quelque part de se retourner en étant pour la grève à 56%, c'est que on leur a pas assez montrer ce problème et cette nécessité.
Allez, 20h40 minutes sur France Info. Nous allons marquer une pause avec ce rappel de l'info, cette information qui nous parvient de La Haye à l'instant avec vous, Solène Cresson.
Plusieurs personnes blessées à coups de couteau dans une rue commerçante de La Haye, aux Pays-Bas. La police néerlandaise l'annonce à l'instant. Les services de secours sont sur place. À Londres, une attaque au couteau sur London Bridge en début d'après-midi fait-elle plusieurs blessés graves. Le maire de Londres salue ce soir l'héroïsme des londoniens intervenus pour empêcher l'attaquant d'agir. Le suspect a été tué par la police qui parle bien d'attaque terroriste. Il portait une fausse ceinture d'explosifs. Plus de 600 000 manifestants en Allemagne pour protester contre le réchauffement climatique. Selon les organisateurs, manifestation aussi à Madrid à 3 jours de la COP25, la réunion des Nations Unies sur le climat. En France, des militants ont bloqué plusieurs sites d'Amazon à Clichy, Lyon ou près de Lille pour dénoncer la surconsommation en ce jour de Black Friday. La cour d'appel de Lyon rendra sa décision le 30 janvier dans le procès du cardinal Barbarin. L'archevêque, jugé en appel pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs, s'est dit soulagé à la sortie de l'audience. L'avocat général n'a pas requis de condamnation. Plusieurs dépôts pétroliers toujours bloqués en Bretagne et au Mans. Les professionnels du BTP de l'Ouest protestent pour défendre leur avantage fiscal sur le gazole. Les routiers sont eux aussi mobilisés contre la hausse du carburant. Et puis attention au risque d'avalanche, préviennent les préfectures de Savoie et Haute-Savoie. Alors que commence l'un des premiers week-ends de la saison de ski, il a beaucoup neigé, les températures remontent avec le beau temps. Sachez renoncer, dit le préfet de Haute-Savoie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Nous allons évoquer les élections municipales à Lille, mais tout de même, Michel Cotta, même s'il faut rester extrêmement prudent sur ce que vient d'annoncer à l'instant Solène Cressan sur cet événement, cette attaque. Apparemment, c'est une source de la police néerlandaise survenue à la haie. Cela semble quelque part, si je puis dire, un petit peu aller dans le sens de ce que vous évoquiez tout à l'heure, de ces agressions qui peuvent survenir à tout instant et qui présentent une menace finalement.
Mais ça va surtout dans le sens de ce qu'on disait
sur l'Europe. Mais il faut rester prudent, attention.
Hein. Toute l'Europe est concernée. Oui. Même si les Anglais veulent sortir de l'Europe, ils sont au même titre que l'Europe concernée par ce terrorisme. Et c'est plutôt à ça qu'on devrait tous penser, comment mettre en commun une défense contre le terrorisme. Ça rejoint le Mali, il faut que plus de gens soient derrière la position française au Mali, mais oui, c'est quelque part, moi, ça me fait encore plus peur que ce terrorisme comme ça d'amateur me fait encore plus peur.
Plus organisé.
Voilà.
Oui. Yasmina Jaffar, attendons d'en savoir plus sur ce qui se produit en Hollande, mais tout de même, ce qui est dit là vaut pour ce qui s'est passé à Londres. Effectivement, c'est une menace qui concerne les capitales européennes, puisque l'on parle de ce qui se passe ici chez nous et autour.
Exactement, les capitales européennes, l'Angleterre et la France, en effet, font partie de ceux qui œuvrent pour lutter contre le terrorisme. Et tout à l'heure, le maire de Londres parlait un peu comme Emmanuel Macron. Il parlait de vigilance et il disait qu'il fallait qu'on soit préparé, qu'il l'était déjà parce qu'ils ont connu en 2017 pas mal d'attentats, y compris lors du concert d'Ariana Grande. Et il parlait de cette idée qu'il fallait non pas tomber dans la délation, mais faire très attention à ce qui se passait et rendre à la police tout acte un petit peu étrange. Donc il faut non pas partir dans des peurs comme on l'avait fait avec la cité de vigilance, mais ça nous apprend là qu'il faut faire très attention à ce qui se passe et se préparer psychologiquement et physiquement au fait qu'on puisse être attaqué. Noël arrive, les rues sont bondées et les organisations de ce type-là sont à l'affût.
Alors je vous rappelle les faits, plusieurs personnes blessées à coups de couteau dans une rue commerçante de la Haye. C'est ce que rapporte donc la police néerlandaise, comme l'évoquait Solène Cressan. Les services de secours sont sur place. Éric Delannemont n'en sait pas plus. Très compliqué, très difficile au fond de commenter ou de porter un regard sur ces événements qui nous parviennent du côté d'Amsterdam et de la Hollande, mais tout de même, c'est vrai que les démocraties, l'Europe notamment, sont fragiles face à ce type d'attaques, même quand elles sont, on va dire, isolées, voire même désordonnées.
Elles sont fragiles d'autant plus qu'elles sont mal coordonnées, il faut revenir là-dessus. C'est que c'est un terrorisme ordinaire, on l'a dit tout à l'heure, mais à visée internationale, donc pas si ordinaire que ça. Et la seule réponse que l'on peut faire de manière efficace, c'est une coopération internationale et européenne sur ce sujet-là. Or, cette coopération, on le sait, avec Schengen qui a été fragilisé, avec les replis sur soi, avec le manque d'informations entre les différents services de police, fonctionne très mal. Ça devait être un des sujets majeurs pour faire en sorte qu'enfin, cette Europe fonctionne mieux.
Franck de Dieu, comment expliquer au fond, et pardon de revenir là-dessus, mais que à chaque fois on a la sensation que il y a une forme, j'évoque la situation à Londres essentiellement, une forme de prise de conscience soudainement qu'il faudrait une coordination plus en avant. Elle existe toutefois.
Elle existe. Ça a été dit, elle est rendue beaucoup plus difficile parce que lorsque vous avez un djihadisme centralisé, c'est quand même, vous savez quelle est la tête. Aujourd'hui, vous avez une sorte de terrorisme réticulaire avec à l'arme blanche qui se dissimule quand même très très facilement. Et donc effectivement, cette coopération, elle est nécessaire, mais elle est rendue beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile. Et l'expression société de surveillance, elle fait quand même froid dans le dos, mais il faut se rendre à l'évidence. Elle a une réalité, je dirais, objective et angoissante.
Voilà, nous évoquons donc ce qui s'est produit ce soir à Londres et il y a ces événements à La Haye dont on ne connaît pas, et je le précise bien pour tous ceux qui nous écoutent, la nature exacte. Pour l'heure, nous vous en dirons évidemment bien plus très vite sur France Info. Nous allons passer aux élections municipales à Lille et la fin d'un suspense que l'on peut qualifier d'insupportable. Martine Aubry va briguer un quatrième mandat. La maire socialiste l'a annoncé dans La Voix du Nord, et l'ancienne ministre de Lionel Jospin, il faut le rappeler, est en place depuis 18 ans. Elle avait dit lors de sa dernière réélection qu'elle ne reviendrait que s'il y avait des circonstances exceptionnelles. Nous y sommes. Eh bien, la France va mal. Voici ce qu'a dit Martine Aubry sur France Bleu Nord ce matin.
Je suis jamais parti dans une campagne en considérant que mes concurrents ou mes adversaires étaient des ennemis. Je parle aux Lillois. C'est, vous savez, aujourd'hui, la France va tellement mal, elle est tellement sous tension, elle est tellement divisée que c'est pas simple. C'est aussi pour ça que j'y vais. Voilà, j'y vais pas en disant la reine mère descend et elle va être élue. Non, j'y vais parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup mûri aussi cette décision avec une belle équipe.
Michel Cotta, c'était couru d'avance quand même, non? Vous n'êtes pas surprise, hein?
C'est jamais couru d'avance, mais enfin, je ne suis pas dans un état de surprise totale. D'abord, il n'y avait personne, pour la remplacer, hein. Il y a vraiment, Patrick Kanner n'est plus en piste pour ça. Bon, elle était quand même, elle est la mieux placée. Alors, elle a son tempérament, ses défauts, mais finalement, j'ai l'impression que les Lillois aiment assez sa brutalité. Ouais, alors que ils aimaient bien mon roi et sa façon ronde d'arranger les choses, mais finalement, qu'elle dise les choses comme elle le dit, c'est-à-dire souvent très désagréablement, je pense que ça plaide plutôt, c'est plutôt un argument en faveur de sa élection, son élection en tout cas.
Franck de Dieu, il y a quand même sur son chemin là, l'ancienne DIRCA, ben, directrice de cabinet, pardonnez-moi, qui a travaillé quand même 10 ans avec elle, Violette Spielboot, qui est désormais la candidate pour La République En Marche. On a l'impression que là, il y a la passation de relais est difficile quand même. Hein.
Il y a aussi Europe Écologie Les Verts, qui aux européennes ont réalisé un très très bon score, 21,7. La question qu'on peut se poser pour toutes ces grandes villes socialistes, c'est est-ce qu'il va y avoir un dégagisme municipal? C'est la question. Peut-être que non, au fond, parce que, à gérer, Anne Hidalgo semble finalement tirer son épingle du jeu. Martine Aubry, elle n'a pas non plus face à une concurrence. Au fond, moi, quand j'étais enfant dans le Sud-Ouest, on parlait du radicalisme cassoulet pour dire la fin du radicalisme. Ben là, on va avoir une sorte de molettisme du Nord, hein, avec comme le maire d'Arras qui a été maire jusqu'en 75, je crois, d'Arras avec la SFIO. On va avoir une sorte de socialisme boboisant où dans les grandes villes riches, finalement, le Parti socialiste, eh bien, ils auront des postes. Ils en auront pas aux élections législative, parce que ce parti est quand même mal en point, mais il peut y avoir encore ces points-là, comme il y en avait dans le Sud-Ouest avec des partis radicaux de gauche.
Rapidement, Eric Delannoy.
Pour moi, c'est le retour flagrant de la vieille politique insupportable, où on a face à nous une dame qui renie tout ce qu'elle a dit en 2014, qui a un bilan qui est juste pas terrible. Hein. Moi, Lille, c'est une des villes de prédilection. Notée 191e sur 278 pour la qualité de vie, avec une pollution qui n'a pas cessé d'augmenter. On ne peut pas dire qu'en 18 ans, elle n'a pas eu le temps de mettre en place des programmes très importants. Bref, on veut faire du neuf avec du vieux, alors que ça masque simplement une impuissance totale.
Yasmina Jaffar, dernier mot, c'est l'ancien monde qui résiste quand même.
Hein. Oui, en tout cas, c'est la saison 4 d'House of Cards. C'est-à-dire qu'en gros, c'est la quatrième saison, elle brille un quatrième mandat et on a le sentiment en effet que c'est une envie de ne pas partir. Donc quand elle dit qu'elle ne vient pas là pour sa propre idée personnelle et qu'elle vient parce que la France va mal, j'ai envie de dire, on verra à la fin de la saison.
Oui, ça serait bien qu'elle dise que Lille va mal en fait.
L'élection, c'est dans 4 mois, c'est devant. Allez, 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Solène Cressant, avec les dernières information peut-être survenue à La Haye.
Et d'abord à Londres, où la campagne pour les législatives au Royaume-Uni est interrompue au moins ce soir après l'attaque au couteau de London Bridge. En début d'après-midi, un homme a poignardé plusieurs personnes sur ce pont du centre-ville. Il a ensuite été abattu par la police qui parle d'attaque terroriste. Il y a des blessés graves. La mairie de Toulouse prend un arrêté d'interdiction d'habiter ou d'accéder à plusieurs immeubles du centre-ville. Cet après-midi, la toiture d'un immeuble inhabité s'est effondrée. Tout le bâtiment pourrait s'écrouler. 16 logements proches ont été évacués par précaution. La direction de Michelin n'exclut pas de fermer son usine de La Roche-sur-Yon avant la fin 2020. Elle est pour l'instant fixée à la fin de l'année prochaine. L'usine Michelin de La Roche-sur-Yon emploie 619 salariés, 74 à Cholet, eux aussi concernés par cette fermeture. Le Premier ministre irakien annonce qu'il va démissionner après 2 mois de contestation dans le pays qui ont fait près de 420 morts. Les manifestants demandent le départ de la classe politique jugée corrompue, mais les violences continuent, notamment dans le sud du pays, près de Najaf. Tout début du match entre Marseille et Brest est toujours 0-0. Match d'ouverture de la 15e journée de Ligue 1 de football. Marseille est pour l'instant deuxième du classement. Et puis Mediapro envisage un recours après les attributions des droits télé de la Ligue des Champions. Canal+ et Bein Sport ont remporté l'enchère. Ils diffuseront la Ligue des Champions de 2021 à 2024.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Merci à vous, Solène Cressant. Allez, on va parler du Black Friday pour refermer ces informés. Black Friday, je dirais, versus écologie. Faut-il interdire ces soldes déguisés? Nous sommes dans une folie commerciale avec cette réflexion sur le consumérisme triomphant. Je vois déjà Éric Delannoy qui sourit avec cette réflexion de Gwenaëlle Gault. Elle est directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation. Elle s'exprimait sur France Info.
Le Black Friday est sur un modèle de consommation de masse du XXe siècle. C'était une question de quantité, d'accumulation des biens matériels. Là, on est en train de passer à une économie des solutions, davantage de la qualité. À un extrême, il y a les gilets jaunes qui veulent consommer plus. À l'autre bout du spectre, vous avez les extensions rébellion qui nous disent Black Friday. Et entre les deux, les questions que se posent les consommateurs sont des questions qui ont trait à notre modèle de développement. Et on voit bien en fait que là aussi, il y a une petite fracture française qui se dessine.
La fracture française, une nouvelle. Du moins, Éric Delannoy, qu'est-ce qu'on fait? On balance notre Black Friday ou pas?
Ah, moi, personnellement, je suis pour boycotter le Black Friday, mais ne pas l'interdire, ce qui est quand même très différent. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il faut responsabiliser et éduquer pour montrer qu'aujourd'hui, on est quand même dans des injonctions contradictoires qui sont quand même assez pénibles, à savoir, on veut à la fois sauver la planète, mais on veut pas renoncer à notre mode de consommation. Ouais. Donc, on n'arrivera pas à sortir de l'équation si chacun ne fait pas un effort. Il y a deux lectures, en fait, du Black Friday. Hein. Et la première lecture économique, qui est que quand on fait 50% de réduction sur des produits, faut se poser la question du juste prix. Et il y a des lignes de produits de moindre qualité qui sont faites exprès pour ce type d'événement. Et puis, il y a la dimension sociologique. On peut pas s'empêcher de penser aujourd'hui que la consommation, c'est plutôt devenu un but, c'est devenu une finalité, et qu'on ne sait plus à quel besoin ça répond, sinon à une ère du vide. Donc moi, je suis quand même pour faire en sorte de consommer mieux et de passer un peu de l'avoir à l'être, pour faire en sorte qu'on puisse conjuguer à la fois continuer à consommer un petit peu, mais en respectant la planète. Surtout pas interdire, parce qu'interdire, c'est infantiliser.
Oui, Yasmina Jaffar, vous validez ce que dit à l'instant notre économiste de choc, Éric Delannoy?
Oui, en effet, ce matin, aux quatre temps, près de la Défense, il y a eu un sitting, donc c'est une espèce de fanatisme comme ça, d'activisme très fort pour nous interdire de rentrer dans le magasin. Et je crois qu'il faut en effet simplement éduquer les gens pour leur dire ce que ça fait que de consommer beaucoup, que d'acheter beaucoup de vêtements, que finalement les retrouver après à la poubelle, dans les déchetteries, ou encore s'ils étaient sur juste des applications pour vendre des vêtements à bas prix, pourquoi pas. Mais à la base, ça a été créé, cette aventure, pour les classes moyennes et des États-Unis. Et nous sommes dans un gouvernement qui est pro-pouvoir d'achat. Donc, il y a une contradiction un petit peu parfois à dire, il y a des membres du gouvernement qui disent il ne faut pas trop consommer. Et en même temps, ça a été fait pour les petites bourses. Mais oui, on va simplement prendre conscience qu'il ne faut pas trop acheter.
Et Franck de Dieu, des centres Amazon, hein, d'Amazon, prise d'assaut par des manifestants, parce que c'est la symbolique du grand méchant loup américain, qui est du rouleau compresseur au fond.
Effectivement, ce sont avant tout, la plupart des produits qui vont être consommés lors du Black Friday sont des produits qui sont importés. Alors, ils viennent pas tous des États-Unis, mais ils profitent largement à ces plateformes qui sont quasiment monopolistiques. Nous, on a publié dans Marianne aujourd'hui le patron de la Camif qui boycotte qui ferme son site et qui dit c'est pas le Black Friday, c'est le Fake Friday. C'est-à-dire qu'il y a une étude du FC Que Choisir qui dit dans 90% des cas, en fait, il y a des augmentations un peu artificielles des prix le jour du Black Friday ou la veille pour ensuite baisser. Et lorsqu'il y a effectivement une baisse des prix, lorsqu'elle est réelle, c'est entre 5 et 10%. Autre chiffre quand même assez, qui là pour le coup, je dirais, milite pour un Black Friday qui n'est pas du tout, qui est plutôt très polluant, 88% des acheteurs d'un smartphone en possèdent déjà un. Alors, donc il y a quand même un vrai problème. Absolument. Un vrai problème. Oui. Maintenant, effectivement, il ne faut pas l'interdire. En revanche, est-ce qu'il ne faut pas réglementer? Et comment? Alors, vous avez Delphine Bateau qui a eu une initiative assez intéressante qui dit, on peut assimiler de la pub a une politique commerciale agressive et donc quelque part donner un peu moins. Maintenant, attention, je serais assez d'accord pour une fois avec vous, c'est-à-dire au fond, il ne faut pas culpabiliser les individus. C'est-à-dire qu'il y a des individus, des gens quand même qui ont du mal à boucler leur fin de mois, eh bien augmenter une forme de pouvoir d'achat pour acheter des produits ce jour-là, eh bien c'est pas totalement répréhensible.
Michel Cotta, faut-il faire confiance à ce que nous sommes nous, je vais dire les consommateurs, c'est nous les consommateurs, comme le disait tout à l'heure Éric Delannoy?
D'abord, il y a des gens qui consomment peu. On sort d'une crise dans laquelle les gilets jaunes nous disaient qu'ils n'ont pas les moyens de consommer. Alors moi, je veux bien qu'on dise que le Black Friday... moi, j'aime pas la contagion américaine, ça m'énerve. Mais bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a une grande différence entre Amazon, qui en effet a tendance à écraser les petits commerces. Et puis, le nombre de magasins que j'ai vus aujourd'hui ouverts dans Paris, dans lesquels les gens consomment, d'accord, mais qui sont des magasins qui ont beaucoup souffert de la crise des Gilets jaunes, qui risquent de beaucoup souffrir de la grève du 5 décembre. Je trouve que si on fichait un peu la paix aux gens, qu'on aille acheter ce qu'on veut quand on veut, voilà.
Éric Delannoy, jadis, jusqu'à récemment, au fond, nous nous ruinions pour Noël, et puis ensuite, il y avait une sorte d'effet deuxième lame, une tentation en janvier. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de vertu dans ces soldes avant l'heure ?
Ah, moi, je ne crois pas une demi-seconde qu'il y a une vertu. D'abord, il y a un paradoxe, parce qu'on va vous expliquer...
Une question provocatrice. Hein.
Je me doute, Jean-François. Mais il y a un paradoxe à penser qu'on va économiser en achetant, quand même. Hein. Donc, c'est quand même le principe des soldes. Donc, il faut quand même avoir en tête que par rapport à ces soldes qui vont générer un achat d'impulsion, donc vont augmenter la consommation, plus de 40% d'entre elles, une fois que le cadeau aura été fait, se retrouvera sur les réseaux sociaux pour une revente. Donc, ça donne aussi un sentiment un peu amer de ce que représente un cadeau, quand même.
Allez, c'est Black Friday. Garder quelques euros pour acheter Marianne. Qu'y a-t-il à la une, Franck Guenier ?
On en a parlé. Pourquoi augmenter les salaires ? C'est la solution. C'est aussi la solution pour résoudre le problème des retraites.
Ouais, à la une de, ouais, très bien. À la une de laruchemedia.com, Yasmina Jaffa.
Une réflexion sur le mot islamophobie avec le sémiologue Jean-Maxence Granier.
Allez, merci à tous les quatre. Michel Cotta, Yasmina Jaffa, Franck de Dieu, Éric Delannoy d'avoir participé à ces informés de France Info. Rendez-vous demain soir avec Neila Latrousse. Merci, bonne soirée.